Bien, une fois ces préalables techniques réglés, bonjour à tous. Vu ce que je viens d'entendre, je ne sais pas si j'ai vraiment quelque chose de nouveau à vous dire, parce que voilà, les collègues, ils ont, à mon avis, intégré beaucoup de choses sur cette question du travail des élèves. Étant entendu que ce qui, en tout cas, moi, me paraît important dans l'affaire, c'est que partir du marronnier journalistique des devoirs à la maison, ça mène jamais bien loin si on ne remonte pas à cette question qui est beaucoup plus fondamentale pour moi, et c'est ce qu'a dit Patrick précédemment, c'est la question du travail des élèves. Je crois que si on ne part pas de ça, on risque de s'abîmer dans des querelles déjà dites, déjà faites, extrêmement répétitives sur à qui appartiennent les enfants, en gros, qui est quand même un problème, qui est une vraie question politique, mais qui règle pas du tout la question des apprentissages et qui, d'une certaine manière, même l'obscurcit. Voilà. En tout cas, c'est ma conviction après, maintenant, un certain nombre d'années passées à travailler cette question. Je suis pas plus malin que vous pour vous dire comment il faut faire travailler les élèves, évidemment. Je peux juste vous dire comment on peut, à mon avis, ne pas poser la question, et peut-être comment on peut la poser, ce qui est en principe le rôle des chercheurs, ambigu, détesté parfois par les uns parce qu'ils posent des questions auxquelles ils n'apportent pas la réponse, mais que voulez-vous, c'est comme ça, le savoir vient aussi de la frustration. Et vous allez être servi. Donc voilà, le titre, hein, entre classe et nos devoirs aux familles, ça va bien, rupture didactique différenciatrice, alors là ça se complique un peu, je ne sais pas d'ailleurs si c'est vraiment le bon terme, mais vous en jugerez. Donc, évidemment, j'ai un plan classique en trois parties, vous en doutiez. La première partie va partir de considérations qui n'ont pas un rapport immédiat avec les devoirs, et je vous ai prévenu, puisqu'il s'agit de s'intéresser à la question des différenciations, que l'on peut nommer, comme le font mes collègues d'Escole, et je vous en parlerai, que l'on peut distinguer en ce qu'ils appellent les différenciations passives et les différenciations actives. Ensuite, j'en viendrai à la question des devoirs, que je regarde comme des conteneurs de malentendus, c'est-à-dire pas comme débouchant nécessairement sur des malentendus, mais comme présentant potentiellement tous les éléments pour que ça fasse du malentendu. Et enfin, j'en viendrai à cet aspect qui concerne les tensions didactiques qui me paraissent, en effet, ça a été soulevé avant moi, important dans la question des devoirs. Moi aussi, j'essaie de travailler avec cette question de conscience disciplinaire parce qu'on a, je crois, le tort de regarder les devoirs comme une totalité indéterminée, et c'est pas du tout le cas. Il y a, comme l'a dit Patrick, des manières différentes de penser les devoirs, comme des compléments du cours, comme des exercices d'évaluation, et du coup c'est pas la même chose. Mais je ne sais pas pour quelle idée curieuse en éducation on globalise la question des devoirs. Le premier entraîneur sportif venu, me semble-t-il, c'est que quand on veut faire s'exercer les personnes, on regarde les points forts, les points faibles, à quel poste elles jouent, qu'est-ce qu'on veut faire avec elles. Et dans la question des devoirs, curieusement, il y a une espèce de nébuleuse qui fait qu'on donne des devoirs sur le modèle de l'offre standardisée qui caractérise l'école de la République, hein, une époque bien, bien précise, qui est peut-être plus très, très, très concernante aujourd'hui, sans se demander si ça fait la même chose à tout le monde, si au fond c'est le lieu de faire la même chose pour tous, et si on doit faire la même chose pour tous quand il ne s'agit pas d'évaluer, par exemple, mais de faire en sorte que les personnes travaillent sur la durée, d'une manière processuelle, leurs points faibles, voire améliorent leurs points forts, etc. Donc il y a des choses assez bizarres, si on veut bien faire un pas, un peu de recul sur la pratique, qui tendent à obscurcir, voilà, à aplatir la réalité du travail qui est à l'œuvre dans les devoirs. J'ajoute évidemment la question des enjeux sociaux, parce que de mon point de vue, une des raisons fondamentales pour lesquelles les devoirs sont une zone très trouble des pratiques professionnelles, c'est que les enjeux sociaux prennent le pas sur les enjeux cognitifs et font obstacle, et que, de mon point de vue, il faut essayer de rentrer vraiment, d'où l'intérêt de l'entrée didactique et de la conscience disciplinaire, par qu'est-ce qui est en jeu dans les apprentissages, plutôt que de se demander combien de temps, combien d'heures, quoi dans le service des enseignants, même si, évidemment, c'est des questions qui se posent autour, mais partir de ces questions-là me paraît pas une bonne piste pour entrer dans le sujet. Et je dirais sans doute quelques mots, si je suis allé jusqu'au bout, sur les difficultés qu'il y a à réintégrer les devoirs dans la classe, puisque ça semble quand même aujourd'hui à peu près admis qu'il faudrait faire travailler davantage les élèves in situ pour des tas de raisons, l'explication, c'est que c'est pas aussi facile et que d'une certaine manière, l'unité de lieu et l'unité de temps que peut constituer la classe ou l'établissement ne suffisent pas à assurer l'unité d'apprentissage qui est visée entre les apprentissages premiers, le milieu didactique numéro un, comme nous l'a appris Christine Félix, qui est notre mère à tous sur cette question-là, et le milieu numéro deux, vers lequel doivent migrer les devoirs pour revenir vers le milieu numéro un. C'est un passage à risque important et la question de la réintégration est donc une question assez épineuse. Voilà. Alors, c'est pas vraiment un scoop. Nous avons une école qui est assez inégalitaire. On s'est défendu de cette idée pendant assez longtemps, jusqu'à ce que les enquêtes internationales, dont on a essayé de pas trop regarder les résultats parce qu'on disait que le thermomètre était pas bon, etc., ce qui est sans doute vrai, mais néanmoins, à partir du même thermomètre, année après année, les enquêtes comme PISA nous montrent bien que notre école à la fois n'est pas aussi extraordinaire que ce qu'on pouvait imaginer et qu'elle est parmi une des plus inégalitaires, non seulement au titre des inégalités qu'elle enregistre du monde extérieur, l'école n'est pas pour grand chose dans le fait qu'il y a une société autour d'elle et qu'elle en importe évidemment la structuration. Pour autant, elle n'est pas non plus indemne de critiques, en tout cas de regards, sur la façon dont elle fait avec ses inégalités. Il y a plusieurs possibilités. Ou bien on les maintient telles quelles, l'idée d'une école reproductrice, un grand classique. Ou bien on les atténue, ou bien on les augmente. Nous boxerions plutôt dans la troisième catégorie, si on en croit les indicateurs à notre disposition. Alors c'est pas une raison pour se flageller en longueur de journée et dire qu'on est vraiment très mauvais, très méchant, parce que les enseignants sont en général plutôt bien disposés à l'égard des élèves et plutôt acquis aux idéaux d'émancipation et de démocratisation par l'école. Néanmoins, c'est pas sûr qu'ils atteignent ce but. Voilà. Donc je crois qu'il est intéressant de regarder de près pourquoi. Et de se dire qu'il peut y avoir des différenciations qui sont pas simplement, encore une fois, l'ombre portée des différences sociales, mais des phénomènes un peu endogènes que l'école fabrique. Alors je vous renvoie pour ça, je fais évidemment de la pub pour le travail de mes petits camarades de ce bouquin collectif qui s'appelle « La construction des inégalités scolaires » dans lequel voilà, un certain nombre de pistes sont proposées et notamment est proposée une distinction entre différenciation active et passive. Alors, je vais vous infliger un peu, juste après le petit déjeuner, un peu de Jean-Yves Rochex, qui est bon, pas toujours forcément digeste, vous pourrez lui répéter, et j'essaie de vous en faire un petit abstract. En gros, si vous voulez, et c'est là pour mémoire, il y aurait aujourd'hui à l'école des modes de fonctionner, par exemple la question de la mise en activité des élèves, qui sont devenus des modes pédagogiques, parfois des doxas, souvent des vulgates. La différence que je fais, c'est que les vulgates sont des savoirs qui ont été rigoureux, mais qui, à un moment donné, à force de se diffuser et de perdre la trace de leur origine et de leur problématique initiale, finissent par devenir des prêt-à-penser assez commodes. Moi, je suis souvent frappé quand je vois des jeunes étudiants de l'IFM et de l'ESP totalement désolés en sortant d'un cours disant « tous mes élèves n'ont pas été en activité ». Et voilà, ils se battent la coupe. On essaie de leur refaire le moral, de leur dire « mais comment vous le savez qu'ils sont en activité ?» Bah oui, on a bien vu, ils parlaient pas. Oui, mais est-ce qu'il suffit de parler pour être en activité ? Et est-ce que ne pas parler, c'est ne pas être en activité ? Donc là, vous commencez à introduire le ver dans le fruit, avec un résultat peut-être pire que celui qui était au départ. Parce que autant il est facile de savoir si des élèves bougent, répondent, lèvent le doigt, sont gentils avec la maîtresse et le maître, autant il est difficile de percevoir les états psychiques qui accompagnent tout ça. Voilà. Il y a des disciplines qui favorisent, je pense que l'éducation physique et sportive, mais peut-être que je me trompe, montre à l'évidence certains types d'activités. D'autres disciplines le montrent de manière beaucoup plus difficile et évidemment ne le montrent pas, en tout cas ne le montre pas dans l'immédiat. C'est bien la difficulté de l'éducation, c'est que les résultats sont pas immédiats, qu'il y a des effets d'après-coup, qu'il faut regarder ça sur des années, et pourquoi le passage des années au cycle devrait en principe être quelque chose qui va dans ce sens-là, parce que les apprentissages peuvent difficilement se mesurer à des intervalles réguliers et standardisés. La question toute simple de la mise en activité et laquelle est à charge des élèves est un point important de ces affaires-là, parce que l'école suppose des élèves suffisamment autonomes pour être en activité, pour être dans une activité réelle, et il n'est pas certain et d'ailleurs on peut sans doute dire le contraire, que la préparation à cette mise en activité soit se fasse dans le cœur de l'école, mais qu'elle se fait largement à l'extérieur de l'école. Pour faire en ce moment des observations de travail à la maison d'enfants, de couples d'enseignants, je crois pouvoir commencer à dire qu'on voit bien par l'ensemble des détours par lesquels le cadrage familial, la pédagogisation de la vie familiale fabrique les cadres qui sont nécessaires à l'activité, qui sont pas forcément construits dans l'école, mais dont les enseignants peuvent nourrir l'illusion que, en particulier comme leurs propres enfants les ont, évidemment, parce qu'ils leur ont donné mais sans s'en apercevoir, c'est bien là qu'est la beauté du geste, ils peuvent penser que tous les élèves possèdent en effet ces cas de l'autonomie et qu'ils peuvent facilement se mettre en activité. Or, l'activité, la tâche, etc., c'est des choses assez différentes, et y compris l'excitation des élèves lorsqu'ils sont debout sur leur chaise en disant « monsieur, 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 dame, dame, dame » n'est pas forcément le signe d'une activité, et d'une activité sur la durée, et d'une activité qui est celle conçue suppose être sous-jacente aux apprentissages scolaires. Donc voilà, les élèves arrivent dans la classe avec des dispositions différentes, pour parler comme les vrais sociologues, dispositions différentes qui tombent plus ou moins en phase avec les attentes scolaires. Évidemment, ces phénomènes-là sont relationnels. Ça n'est ni l'école qui fabrique ça, ni la société. Et d'ailleurs, l'école, c'est quand même un bout de la société, il ne faudrait pas l'oublier au passage. Et c'est dans la relation entre les deux que se fait ou ne se fait pas la jonction pour des élèves, ou en tout cas se fait de manière privilégiée. Donc, il y a des différenciations passives, qui est que l'école récolte des élèves qui ont été socialisés avant. Et vous savez comme moi que selon le jeu bien connu de la patate chaude, nous enseignants avons toujours tendance à référer à l'échelle inférieure, en tout cas antérieure, les déficits de formation. Voilà. Que leur a-t-on appris au lycée? Que leur a-t-on appris au collège? Que leur a-t-on appris au primaire? Qu'a-t-on fait au jardin d'enfants? Etc. Les auteurs de cet ouvrage insistent pas au contraire, mais insiste sur une différenciation moins perçue, qui est l'idée de différenciation active, laquelle peut s'opérer non seulement évidemment entre des établissements, parce qu'il y a une manière d'offre éducative qui fait que, vous le savez comme moi, l'offre scolaire n'est pas égale pour tous, malgré l'existence d'une carte scolaire, que ce qui se passe dans les REP, c'est pas exactement ce qui se passe dans les établissements du 5e arrondissement parisien, pour prendre qu'un exemple. Donc il y a une offre scolaire qui est différente. Lorsque je travaillais sur les internats d'excellence, beaucoup de parents de milieux populaires que j'interviewais n'avaient aucune idée de ce qu'était la notion d'excellence. C'était pas du tout leur souci. Eux, ce qu'ils voyaient de bien, c'est que quand leur gamin était dans un établissement associé à cet internat, les enseignants étaient remplacés, il y avait toutes les disciplines qui étaient offertes, c'est-à-dire une scolarité normale. Ça paraît un peu curieux, mais ils avaient l'impression, et c'était pas qu'une impression, que là où ils étaient, l'offre scolaire était pas normale, tout simplement, parce qu'elle n'était pas, il y avait une espèce de déficit à peu près permanent, pour toutes les raisons que vous connaissez. Que vous pouvez imaginer. Donc la différenciation active, elle n'est pas simplement du côté de l'offre, parce qu'elle peut exister au sein d'un même établissement, elle peut exister au sein d'une même classe, et c'est là où notre responsabilité, évidemment, est davantage engagée, parce que nos gestes professionnels, disent certains, ne sont sans doute pas innocents dans les résultats, même si les intentions peuvent paver cet univers du mieux possible. Rochek Sekrinan emprunte là aux didacticiens, oui, on leur emprunte beaucoup, la notion de contrat didactique différentiel, qui signifie, si j'ai bien compris, que les systèmes d'attente qui caractérisent les contrats didactiques ne sont pas forcément les mêmes d'un élève à l'autre, et qu'un élève qui arrive avec le même cahier rouge de grammaire dans son cartable n'a pas la même idée, n'a pas la même attente de ce qu'il doit faire à la maison le soir par rapport à d'autres élèves qui ont le même cahier rouge et à peu près le même cartable et les mêmes logos. Donc il y a des contrats didactiques différentiels qui font que, et ça boucle évidemment avec la question du rapport au savoir travaillé par Escol, qui fait que le rapport des élèves aux apprentissages peut ne pas être le même à partir d'un substrat supposé commun. Alors ça peut paraître une banalité, je crois que ça va quand même très loin, parce que l'idée qu'on offre la même chose à tous, du coup, commence à être soupçonnée, un peu de la même manière que comme nous, parents, nous étonnons que nous avons plusieurs enfants qui se comportent pas du tout de la même manière, alors qu'on les a élevés pareil, avec le même amour, les mêmes budgets, etc. Oui, mais qu'est-ce que c'est ce même? Est-ce que ça peut exister? Mais je crois que tout, l'éducation, qu'elle soit familiale ou scolaire, pose exactement le même type de questions à tout le monde. Je vais, pour développer ça, m'appuyer sur deux cas, de manière un peu rapide. Le premier, qui est le travail de thèse d'une doctorante, Marion Van Brederode, qui est une thèse en cours, Marion a comme projet que je trouve tout à fait... Pardon ? Oui, Patrick me montre, quoi. Comme projet tout à fait intéressant de s'adresser aux sciences de la vie et de la Terre. Parce que lorsqu'on regarde les classiques de la sociologie de l'éducation, ayant nos ancêtres Bourdieu et Passeron, par exemple, lorsqu'ils regardent ce qu'ils appellent voilà, la domination symbolique à l'œuvre à l'école, ils regardent en général des contenus culturels légitimes prisés, et la littérature, les arts. Hein. Nous vivons dans un pays dans lequel ces pratiques sont distinctives, et y compris Bourdieu montrait que qu'il y avait des intellectuels qui pouvaient être relativement dominés dans certains secteurs. Les gens qui deviennent ingénieurs, qui sortent d'une grande école, à la fois ils ont une situation prestigieuse, ils ont très bien gagné leur vie, ils occuperont des postes de commandement, mais ils pouvaient, en tout cas à l'époque, nourrir une sorte de sentiment d'infériorité par rapport à des vrais lettrés, qui eux avaient leur vraie culture. Donc il y a là un poids de cette culture légitime dans notre pays qui fait qu'on peut soupçonner le français en particulier et d'autres disciplines d'être plus particulièrement discriminante par rapport aux élèves. Quand on regarde les résultats PISA, ça apparaît pas comme ça. On voit bien que les productions d'inégalités concernent toutes les disciplines, ce qui veut dire que ça doit aller au-delà des contenus des disciplines, que ça va dans les modalités même d'apprentissage et de découpage du monde que proposent ces apprentissages. Et d'où l'intérêt de regarder les SVT, où on pourrait le faire avec les mathématiques, discours universel, hein, et d'essayer de regarder si ça fabrique aussi la différenciation. Donc Marion fait ça à partir d'une démarche qui est assez innovante, en tout cas qui nous change des approches qualitatives qui sont souvent les nôtres, c'est qu'elle collectionne des cahiers d'élèves sur une année. Bon, ça fait un gros stock, hein. Dans 12 établissements qu'elle a choisi entre favorisés, très favorisés et défavorisés, très défavorisés. Ce qui est, alors ça ne veut pas dire que c'est ce que les élèves apprennent, mais ça veut dire que c'est ce qu'on leur donne à apprendre. Évidemment, il peut toujours y avoir un décalage. Hein, on peut décliner à l'infini les modes de réappropriation des contenus proposés. Néanmoins, savoir ce que les élèves ont en magasin pour pouvoir travailler est déjà un indicateur qui nous paraît pertinent de ce que l'école leur offre et éventuellement des types de différenciation active pour le coup qu'elle fait, puisque là personne ne l'a demandé de faire comme ça plutôt qu'autrement. Alors, la typologie qu'elle propose pour regarder les savoirs biologiques à disposition d'élèves de 6e, c'est trois types de savoirs. Il y a ce qu'elle appelle les savoirs propositionnels. Alors elle s'adresse directement voilà, à des gens comme Astolfi, Orange, etc. pour bricoler ces indicateurs. Les savoirs propositionnels, c'est des savoirs que. Voilà, on sait un certain nombre de choses, et ce qui les caractérise, c'est qu'ils sont assez juxtaposés. Alors, le cas ici dont je me sers, c'est ce que font les animaux lorsque les réserves de nourriture viennent à manquer ou à diminuer, ce qui est le cas de la saison froide. Et voilà, les biologistes vont faire un rapport entre l'évolution du stock de disciplines de nourriture disponible, lui-même en lien avec les saisons, et les comportements animaliers qui sont correspondants. Donc il y a un enchaînement causal qui fait que pour bien comprendre le phénomène de migration ou de changement de régime alimentaire, on doit être capable de corréler, et même d'aller au-delà d'établir des rapports de cause à effet, entre ce que font les saisons à la végétation et ce que font la végétation aux estomacs s'ils en ont des animaux, et ce que ça fait à leur comportement qui, en bande darwinien, vont devoir s'adapter pour survivre et rejouer l'année suivante s'ils sont toujours là. Donc les savoirs propositionnels, ça vous dit ça, certains animaux restent actifs toute l'année dans leur milieu de vie, par exemple le renard. C'est vrai, c'est pas vrai, bien sûr, c'est vrai, le renard est toujours là, il est actif, d'accord. D'autres changent de comportement, ils restent présents, mais ils sont inactifs. Le hérisson se met en hibernation. Il y en a qui s'en vont, la sympathique cigogne noire, elle migre. Alors aujourd'hui, semble-t-il un peu moins, parce qu'il y a trop de déchets en Afrique, donc voilà, ça complique un peu les données de vie de ces sympathiques animaux. Et peut-être que ça va faire remonter la courbe des naissances, puisque comme vous le savez, on peut corréler la présence des cigognes et les taux de fécondité. J'ai bien dit corréler, hein. Alors, il y a d'autres savoirs qui se présentent comme des savoirs problématisés, qui sont, pour le dire en termes plus simples, des savoirs pourquoi. Non seulement on sait que, mais on sait pourquoi. En principe, les sciences sont plutôt du côté des savoirs pourquoi, qui expliquent en même temps les savoirs que. Voici ce que va dire un résumé d'élève, un texte de savoir d'élève que l'on trouve à la fin de la leçon. Pour affronter la mauvaise saison, beaucoup d'animaux changent de comportement. Il y a un pour. Alors bon, il y a un côté un peu finaliste, comme biologiste récuserait peut-être parce que c'est pas une stratégie délibérée de la part des animaux. On peut discuter. Certains animaux restent sur place. Et soit se mettent en vie ralentie, hibernation, endormissement, soit ils restent actifs. Donc vous avez une branche logique hein, avec des dichotomies qui permet de classifier les comportements des animaux. Soit ils restent actifs, mais ils modifient le régime alimentaire. Vous avez un arbre logique qui est donné dès le début, dans lequel on voit bien, me semble-t-il, comment le savoir savant va structurer des comportements qui pourraient être erratiques, aléatoires, juxtaposés, rencontrés par hasard. D'autres animaux, au contraire, quittent leur milieu pour rejoindre des régions plus riches en nourriture et reviennent au printemps noir, ils migrent. Et là, vous pouvez ranger tout ce que vous avez sous la main, la cigogne noire, un certain nombre d'autres oiseaux migrateurs qui, au fond, ne vont faire qu'illustrer, hein, que remplir la case logique qui a été déterminée auparavant. Alors, le premier cas, on le trouve dans un collège défavorisé, le numéro 11. Le deuxième, on le trouve dans un collège favorisé. Mais, vous dit Marion, on le verra, en fait, il y a peu de cahiers qui comportent des savoirs vraiment problématisés. Ce qu'on trouve davantage, c'est quelque chose d'un peu mixte, ce qu'elle appelle des savoirs un peu plus qu'eux, problématisation intermédiaire, qui sont à la fois dans des juxtapositions, mais à la fois dans des embryons d'enchaînement causal. Certains animaux, comme la mésange charbonnière, restent actifs en hiver, cependant ils doivent changer de régime alimentaire. D'autres, comme la marmotte, restent présents dans leur milieu de vie, mais ils deviennent inactifs en hiver, ils sont en hibernation. D'autres, comme la cigogne, quittent leur milieu de vie en hiver pour aller vers des régions plus riches en nourriture et reviennent au printemps pour se reproduire, ils migrent. Donc vous avez les uns, les autres, etc. Mais à l'intérieur de ça, des débuts de problématisation qui commencent à vous expliquer pourquoi ils se comportent comme ceci plutôt qu'autrement. Alors pourquoi vous dire tout ça ? Ben parce que quand on regarde ce que ça fait et qu'on fait des camemberts avec les cigognes, si cette transformation ne vous effraie pas trop, lorsqu'on regarde ça de près, on se rend compte que les savoirs problématisés que vous avez ici, je sais pas comment ils sortent sur l'écran, en verdâtre ou en jaune, ils sont relativement faibles et c'est pas ça qui fait vraiment la différence. Il y en aurait même un peu plus dans l'échantillon de Marion, du côté des établissements accueillant des élèves de milieux défavorisés, plutôt que dans les autres. Ce qui fait vraiment la différence pour elle, c'est les savoirs intermédiaires, les savoirs un peu plus qu'eux, qui sont nettement plus présents, hein, et au-delà du simple aléa, il y a vraiment une corrélation, nettement plus présents pour les élèves issus de milieux favorisés que pour les autres ayant droit aux trois quarts à peu près à des savoirs propositionnels. Voilà, constat, hein, et que la thèse doit évidemment corroborer à partir d'autres exemples qu'elle prend, et elle est au travail en ce moment, donc vous en saurez plus de la prochaine fois, mais l'idée qui commence à se dégager très fortement maintenant à ce moment actuel de son travail, c'est que en gros, tous les élèves n'ont pas droit à la même science, hein, dans les établissements différents. Alors après, pour quelles raisons est-ce que c'est pour les raisons classiques que l'on aimait? Vous savez, on dit qu'il y a des curriculums d'établissement aujourd'hui et que d'une certaine manière, comme le dit Agnès Van Zanten depuis l'école de la périphérie, il y a des resocialisations professionnelles dans les établissements de la périphérie où les enseignants collectivement commencent à se convaincre les uns les autres qu'avec ces élèves, ça on peut pas le faire et que donc on va faire autre chose. Hein ? Alors l'idée n'est pas de dire que vraiment ce sont des traîtres à la République. Nous y serions, et peut-être certains d'entre vous où ils sont, nous ferions sans doute rigoureusement la même chose, mais il y a une sorte d'accréditation collective que peut-être il faut mettre en question, la solution n'étant elle-même évidemment que collective de mon point de vue, parce qu'on ne peut pas changer ça tout seul. Il y a une accréditation collective du fait que c'est impossible avec certains élèves et que du coup, on va travailler les savoirs, les retravailler, les redécliner, on va passer du prescrit au réel, hein, ce que nous ont appris à faire les sociologues du curriculum, et avoir et leur livrer des contenus pédagogiques qui sont pas exactement les mêmes que ceux qu'on donne aux autres. Il y a d'ailleurs, comme je le montrerai, je pense dans un dernier exemple, des établissements dans lesquels on fait plus que le curriculum, des établissements dans lesquels on fait moins que le curriculum. Deuxième exemple que j'emprunte toujours au même bouquin de Rochex et Crinon, et qui trouve un écho dans un des étages de la fusée Néopas sur la question de la recherche des antonymes. Travail apparemment difficile pour les enseignants. Pas facile de savoir ce qu'est un antonyme. On va dire, si vous connaissez par cœur votre néopas, il y aura peut-être une interrogation écrite à la fin. On voit que l'enseignante a beaucoup de mal. Elle dit à les élèves, voilà, c'est un mot qui est le contraire de l'autre. Après, alors les élèves disent, bah oui, le soleil et la pluie, l'été et l'hiver, elle commence à être un peu perdue parce qu'elle ne maîtrise plus. Voilà, ce travail sur qu'est-ce que c'est le contraire de quelque chose n'est évidemment pas simple du tout. Et là, voilà ce que nous dit Rochex en particulier, où il va parler de cadrage différentiel de l'activité des élèves au moment même où on agit. Dans le cas dont il est question, l'enseignant va répéter la même consigne à tous les élèves, étant à peu près convaincu que le fait de donner la même consigne va avoir les mêmes effets sur tous. C'est pas sûr du tout si on observe, je vous lis. Ces modes de cadrage différentiel d'activité des élèves sont très récurrents dans nos observations, etc. Donnons-en un autre exemple, qui porte sur une séance au cours de laquelle les élèves ont à trouver différents antonymes de l'adjectif léger, selon que celui-ci est associé à des mots différents, une valise, un vêtement, un repas, un café, une blessure, un sommeil, un tempérament, et vous voyez les aspects qui sont plutôt figurés, les aspects qui sont plutôt propres, voilà, et toujours le même léger. Là encore, la consigne essentielle que donne la maîtresse consiste à chercher dans le dictionnaire, et sa réitération individuelle est quasiment la seule réponse qu'elle apporte aux questions ou interpellations des élèves. Tu sais où tu peux trouver une réponse, à Johanna. C'est pas moi le dictionnaire, à Faouzia. Tu l'as sur le bout de la langue, tu le cherches dans le dictionnaire, à Awa. Et là encore, les élèves sont inégalement armés et inégalement guidés pour faire usage du dictionnaire de leurs connaissances culturelles et lexicales pour trouver ou non les réponses attendues. Ainsi, n'est-il pas évident de savoir pour trouver celle-ci s'il est plus pertinent de consulter le dictionnaire à l'adjectif léger ou aux différents substantifs auxquels il est associé, ni de savoir quel dictionnaire consulter pour cela, voir s'il est bien nécessaire de recourir au dictionnaire pour trouver les différents antonymes de l'adjectif léger. Voilà, une situation qui paraît simple et qui en réalité s'avère extrêmement compliquée, parce que, curieusement, le fait de donner la même consigne à tout le monde et de faire œuvre de justice en disant « je vous en donnerai pas plus que ce que je vous donne parce que je peux pas faire de différence, la consigne vous l'avez tous et donc vous n'avez qu'à la respecter », du coup elle est extrêmement différenciatrice parce que les mêmes élèves ne reçoivent pas la consigne de la même manière. Voilà, je suis désolé de, enfin c'est pas moi d'ailleurs le coupable ici, mais de compliquer des choses qui paraissent simples, parce que la question c'est que derrière les consignes, il y a ce que Sansevier et moi on essaie d'appeler les arrière-plans des apprentissages, et que donner les consignes n'épuise pas la question des arrière-plans. Les étudiants de l'IFM et de l'ESP sont très très braqués, très focalisés sur la question de la clarté des consignes. Ils n'ont sans doute pas tort, il y a une consigne claire qu'une consigne obscure, mais la croyance qu'on pourrait éclairer la tâche parce qu'on a éclairci la consigne est sans doute une croyance. Malheureusement, le travail enseignant est du côté, alors évidemment, de la clarté de la consigne, mais sans doute de l'explicitation des... Qu'est-ce qu'il faut faire pour faire ce qu'on nous demande de faire ? Je veux dire que ce qu'on peut dire en didactique professionnelle ou en analyse de l'activité pour les adultes, c'est exactement la même chose pour les élèves. Qu'est-ce qu'il faut qu'ils fassent pour faire ce qu'on leur demande de faire ? Qu'est-ce qu'il y a à faire ? Voilà. Et là, évidemment, on passe de l'autre côté de la transparence de la consigne pour entrer vers des choses beaucoup plus compliquées. Et tandis que Charlotte ou Lucille s'émancipent ostensiblement de la consigne, alors c'est là où est le paradoxe, c'est que d'une certaine manière, les élèves qui réussissent sont les élèves qui s'émancipent de la consigne, qui vont faire autre chose qu'à chercher dans le dictionnaire, et n'usent pratiquement pas du dictionnaire, mais ont recours à leur connaissance lexicale. Ben voilà, délit d'initié, d'une certaine façon. Si vous avez du champ lexical et que vous savez qu'il y a différents sens de léger que vous pouvez connecter à différents mots ou à différentes situations, vous êtes bien plus armé que le dictionnaire qui... Le dictionnaire, c'est pas un prêt-à-penser. D'une certaine manière, il vient peaufiner, préciser des choses quand vous savez déjà ce que vous devez en faire, mais il vous donnera jamais la solution aux questions que vous posez. Mais on recourt à la connaissance lexicale. Johanna oscille entre chercher sur le conseil de la maîtresse au mot léger plutôt qu'au mot blessure pour trouver l'antonyme de l'expression de blessure légère, et chercher à l'inverse au mot repas pour proposer à propos de celui-ci les mots focales copieux. Voilà. Comment on sait qu'on va chercher le substantif ou plutôt l'adjectif? À propos de celui-ci, les mots frugales et copieux, qu'elle recopie sur son cahier, manifestement, sans en comprendre la signification, comme antonyme de léger. Ce qui lui vaut cet échange bien peu explicite avec l'enseignante. Alors, frugal et copieux, c'est des mots contraires. Frugal, c'est le contraire de copieux. Donc, un repas léger, Johanna, copieux. Voilà, tu mets frugal égale léger. dont il est peu probable qu'elle retire grand-chose en dehors de la satisfaction, ce qui est déjà pas mal, d'avoir une réponse à une question dont le sens lui a largement échappé. Là, on pourrait répéter ces exemples tout à fait banals, hein, je crois, qui font l'ordinaire des classes. Et ce détour ou ce long avant-propos par l'histoire des différenciations actives, évidemment, je m'en saisis pour me dire que si ces questions sont déjà présentes dans l'ordinaire de la classe et en présentiel, alors on peut imaginer que c'est présent a fortiori dans le moment des devoirs dans lesquels les élèves sont livrés à leurs propres forces ou à des forces d'emprunt qui, dans le meilleur des cas, vont dans le même sens que l'école, mais dans un grand nombre de cas, vont dans des sens différents, comme a pu le montrer Séverine Capot en particulier sur un exemple que je reprendrai vers la fin, à partir de ce qu'elle appelle les didactiques familiales, où on voit se déployer des modes de compréhension des choses et de traitement des questions qui sont souvent diamétralement opposées à ce que l'école attend, hein, alors même qu'elle demande aux parents d'intervenir, évidemment. Voilà, donc faire ses devoirs, c'est quelque chose sur quoi nous avons travaillé. Je vais être, je pense, assez rapide là-dessus, parce que c'est des choses qui maintenant sont connues, que moi j'emprunte d'ailleurs à Philippe Savoie, qui est quelqu'un qui a travaillé et travaille toujours au sein de l'Institut français d'éducation à l'époque dans le service d'histoire, et qui nous a appris cette chose-là, qu'une lointaine réforme de l'enseignement secondaire a, d'une manière qui nous semble aujourd'hui naturelle, mais qui l'a pas toujours été, changer la structure des séquences de cours pour faire passer l'enseignement de séquences de 2 heures à des séquences 1 heure. Alors c'est un travail qui peut apparaître simplement comptable, sauf que ça a eu une conséquence qui, d'après lui, je crois, si on y réfléchit, n'est pas infondée du tout, a fait que lorsque vous n'avez plus qu'une heure de cours, vous vous centrez sur la leçon et vous faites les exercices après, à un autre moment, dans d'autres lieux, avec d'autres personnes. Ce qui était de l'ordre du travail intégré est devenu de l'ordre du travail de plus en plus externalisé, parfois en dehors de la classe, parfois en dehors de l'établissement, et parfois dans des lieux avec, encore une fois, des personnes, voire des entreprises qui ne partagent pas forcément les mêmes visées didactiques, voire éducatives. Ce qui a, de mon point de vue, un double inconvénient. Le premier, c'est que les enseignants se privent d'indices sur la manière dont les élèves travaillent. Et je vois mal comment on peut aider un élève à travailler si on ne le voit pas travailler. On peut que lui donner des consignes, l'assommer avec des guides et des conseils méthodologiques hors sol dont il ne retiendra les choses que s'il a déjà compris ce qu'il fallait faire, ce qui veut dire que c'est déjà un peu trop tard pour la plupart des autres. Je dis souvent, voilà, c'est un peu comme les guides de montage IKEA, vous les comprenez une fois que vous avez monté 3 fois les étagères dans le mauvais sens et que vous enragez, que vous avez des ampoules, etc. C'est exactement pareil, là, la méthodologie, il faut se frotter au réel pour en comprendre l'utilité. C'est ce que font très bien mes parents d'élèves enseignants que je vois faire et qui, au lieu de faire de la méthodologie hors sol, disent, voilà, ben, tu vois, t'as posé cette opération dans le coin en haut à droite, tu vas pas t'y retrouver, vraiment, il faut les poser autrement. Et ils enseignent là des paradidactiques, hein, qui sont les outils intellectuels normaux, ordinaires, quotidiens du travail des élèves, que l'on ne peut penser à mettre en place que quand on les voit être dans l'erreur et qu'on est là pour le faire. Et deuxième élément, évidemment, qui est lié à celui-ci, c'est que les enseignants perdent des indices de l'activité, mais évidemment, les élèves perdent les conseils qui leur serait utile au moment où ils en ont besoin. Donc tout le monde perd dans cette affaire de l'externalisation. Je crois qu'il n'y a pas de gagnant, sauf ceux qui ont la chance d'avoir du travail réinternalisé à la maison. Mais là, c'est nos enfants et on n'est quand même pas majoritaire. Le type de contenu de malentendu, c'est ce que j'ai essayé de formaliser sous ce schéma, c'est que lorsqu'on pense qu'on donne les mêmes devoirs aux élèves et lorsqu'on interviewe les enseignants, ce que j'ai fait à l'époque, on se rend compte qu'en réalité, les enseignants peuvent avoir des attentes différentielles des devoirs. Et du coup, si elles sont différentielles, elles peuvent être différenciatrices parce qu'elles ne sont pas interprétées de la même manière par tout le monde. Les enseignants disaient en général, ce que j'appelais le type numéro 1, que les apprentissages, c'est fait pour mémoriser des savoirs qui ont été acquis dans la journée, par exemple, enfin, qui sont supposés avoir été acquis dans la journée, et qui sont de l'ordre du renforcement. Voilà. Il y en a un qui a employé l'expression « enfoncer le clou », je trouve que c'était une expression tout à fait intéressante, qui peut devenir une véritable catégorie, hein, puisqu'il s'agit de conserver à l'identique ce qui a été appris une première fois. Christine Félix nous montre d'ailleurs, c'est une des grandes révélations de son travail, que les bons élèves, ce que l'école reconnaît comme bons, sont encore ceux qui passent le moins de temps au travail, en tout cas ils passent pas plus de temps que les autres, et plutôt moins, parce qu'ils se contentent à la maison de confirmer, de conforter ce qu'ils avaient déjà compris une première fois en classe. et que d'une certaine manière, moins vous avez compris ce qui se fait en classe, plus vous allez passer du travail à la maison à essayer de rattraper le temps perdu, mais à compte d'auteur, hein, cette fois, et sans le secours des gens qui, normalement, devraient vous aider à apprendre ce qu'ils n'ont pas réussi à vous faire apprendre une première fois, en tout cas vous aider à l'apprendre. Donc là, on est devant des tâches qui sont très spécifiques, comme vous le voyez dans le bas du tableau. Il y a une flèche qui a disparu entre-temps, non ? Spécifique, pourquoi ? Parce que c'est chaque jour, c'est sur des exercices, c'est sur des leçons, etc. Lorsqu'on dit, et que je répète moi-même, que depuis 1956, les devoirs écrits sont interdits à la maison, le fait qu'il y ait des leçons, de mon point de vue, ça va pas mieux, hein, parce que autant on voit bien les complications qui sont celles du devoir écrit, autant, et Patrick l'a dit tout à l'heure, le fait d'apprendre les leçons, ça va pas de soi non plus. Et donc, laisser les leçons, c'est pas forcément, puisqu'à l'époque, les deux critères d'interdiction des devoirs, c'était des critères hygiénistes. Les enfants sont fatigués, ils s'y font de vraies journées de travail, pourquoi leur imposer une autre ? Les adultes n'en veulent pas, et eux, pourquoi on leur infligerait ? Voilà. Et l'autre argument était un argument de caractère démocratique, qui était, c'était du pré-allègre, l'école doit être elle-même son propre recours. Et donc, on voit pas pourquoi les élèves travailleraient au milieu d'influences sociales dont l'école précisément essaie de les prémunir, et pourquoi ils feraient le vrai travail au moment où ils ne sont plus dans l'école. Donc ça, c'est sur des tâches spécifiques au jour le jour, apprendre telle leçon, faire tel exercice, mais vous disent les enseignants, évidemment, un élève, il doit comprendre que par-delà l'acquittement de cette tâche spécifique, il travaille pour le futur, il doit s'exercer à apprendre intelligemment, être capable de transférer sur d'autres objets, soit d'autres objets de la même discipline, soit éventuellement des objets d'autres disciplines, les savoirs, les schémas causaux, historiques qu'il a acquis. L'école, c'est un endroit dans lequel on fait tout le temps des généalogies, on fait tout le temps des mises en rapport, les espèces de schémas qui tiennent à la forme scolaire de nos pays et de notre époque, et qui sont transférables, bien évidemment, en tout cas pour les adultes, sur d'autres objets, c'est plus difficile à percevoir pour les élèves, et les devoirs, par leur répétitivité, par leur constance, ont pour but d'installer ces réflexes, jusqu'au type 3, qui est finalement le nec plus ultra. C'est-à-dire qu'à la limite, si on vous donnait pas des devoirs, ça vous manquerait. Parce que y a quelque chose qui est de l'ordre de la mise en activité intellectuelle, hein, c'est quasiment hegelien, hein, on travaille pour travailler, parce que l'homme se réalise dans le travail, il y a une espèce de philosophie qui est sous-jacente à ça. En travaillant l'objet, il se crée comme sujet, et on vise en effet la création du goût de l'effort, hein, avec toute l'éthique, alors peut-être protestante à la base de ça, je sais pas, mais qui est que pour se réaliser soi, il faut se confronter à des épreuves, les surmonter, évidemment, de la manière la plus positive possible. Apprendre un goût de l'effort qui est au fond la trame de ce que vont être les études jusqu'à aujourd'hui, 25 ou 30 ans. Parce que ce qu'il faut voir, c'est que dans les devoirs du soir, on prépare des habitudes, des habitus, on pourrait dire Bourdieu, qui doivent être ceux, non pas de la classe de CE1, de CP ou tout ce qu'on peut imaginer, mais les habitus d'une vie ou d'un quart de la vie humaine qui se consacre aujourd'hui à préparer la vie adulte future. Donc c'est un voyage au long cours, devant lequel il n'est pas sûr que les élèves se situent devant le même contrat. Vous savez comme moi que plus les élèves sont de milieu populaire, plus ils créent leur scolarité en empilant une année sur l'autre, en disant « si je peux passer avec juste la moyenne, ça sera déjà pas mal », là où d'autres voient évidemment plus loin, et voient tellement plus loin qu'ils ne se posent même pas la question de savoir s'ils voient plus loin et quel sera leur projet, puisque le projet de faire des études est un projet en soi, perçu comme la clé de tous les succès ultérieurs. Donc, entre spécificité et générité du travail à la maison, vous voyez qu'il y a, je crois, des différences considérables et qui nourrissent les contrats didactiques différentiels. Dernier point, alors comment ça se joue ? Eh bien, je crois qu'il y a des cas dans lesquels, lorsqu'on va voir comment ça se passe dans les familles, et là je pille de manière honteuse le travail de Séverine Carpeau, aussi bien pour les cas dans lesquels il y a, mais elle le sait, dans les cas il y a moins que le curriculum, ou les cas dans lesquels il n'y a plus que le curriculum, il y a un cas que vous avez peut-être déjà entendu de ma part, mais il est tellement beau que je peux pas résister à vous montrer à nouveau. Nous sommes dans une famille. Alors le travail de Séverine Carpeau, hein, qui a donné un bouquin, c'est Les devoirs à la maison, mobilisation et désorientation des familles de milieu populaire. Puisque la posture de Séverine, c'est de dire, contrairement à ce qu'on pense et à ce qu'on dit parfois, et surtout quand on est mal intentionné, les familles populaires sont très mobilisées sur l'école, elles sont très mobilisées sur les devoirs, elles font un travail considérable. Quand je dis famille, c'est les mères, hein, mais ça change pas d'un milieu à l'autre, d'une façon façon générale. C'est un peu transclasse. Elles ont donc une très forte mobilisation sur les devoirs. En revanche, elles sont désorientées par les devoirs. Et je trouve que le fait de mettre en tension mobilisation et désorientation est intéressant pour comprendre ce qui se passe entre les éplucheurs de légumes et la télévision à fond tous les soirs dans un certain nombre de familles. Donc là, Augustine, elle est libérée des activités professionnelles. Elle se consacre donc beaucoup à sa nièce, mais aussi à d'autres enfants du même collège qu'on lui envoie, parce qu'elle est vécue par le collège comme une pro des devoirs et comme quelqu'un qui remédie en lecture quand les enfants ont des difficultés. Donc là, il y a un travail qui a été donné à lire par l'enseignante. Dans la tête de l'enseignante, le travail doit faire l'objet d'une lecture silencieuse. L'interprétation d'Augustine n'est pas celle-ci, comme vous allez le voir. Moi, en principe, je t'expliquais qu'il faut mettre la main pour pouvoir bien suivre. Je ne fais pas comme la maîtresse. Alors, on est en sixième, hein, et voilà, je vends un peu la mèche, mais Augustine ne cesse de voir à travers sa propre scolarité primaire, à travers les objectifs d'acquisition de l'écriture, de la lecture-écriture, et de zéro faute en orthographe, bien évidemment. Je ne fais pas comme la maîtresse. Ce que je fais, c'est pour voir si tu enregistres bien tes sons, si tu regardes bien, parce que tu ne travailles pas pour manger la majeure partie des mots. Alors, on commence à lire. Allez. Priscilla, vol de bijoux à l'hôtel Métropole. D'abord, tu sais, tu as déjà mangé le E, ça ne va pas. Ah oui, Métropole, voilà. L'hôtel fait le ménageux le matin en présence ceux de Célestineux et revient ouvrir les lits et très très docile. Hein, Priscilla, le soir, dans les mêmes conditions. Autrement, elle n'aimait pas le pied ici, comme je le disais, poursuivit Madame Oupalsen. Je suis montée, j'ai ouvert ce tiroir, elle désigna le tiroir de droite de sa coiffeuse. Alors si tu dis de sa coiffeuse, tu l'écris sans E. Alors moi j'aurais dit de sa coiffeuse. Oui, de sa coiffeuse. Parce que quand on est en orthographe, la maîtresse, elle te dit la coiffeuse et toi, tu sais déjà que c'est la coiffeuse. Tu comprends? Allez, on y va. Parce que quand on est en orthographe, la maîtresse, oui, pardon, j'en ai sorti mon coffret à bijoux et j'ai mis la clé dans la serrure. Le doigt d'Augustine lui indique de revenir en arrière. Dans la serrure, tout semblait normal. Tu vois, là, tu l'as dit, normal, c'est bien. Oui, parce que il n'y a pas de « on dit pas normal, normal », tu as bien dit, voilà, renforcement. Et quand tu lis avec ta tante, alors dialogue avec l'enquêtrice, parce que ça dure longtemps, la chose, c'est comme quand tu lis en classe, c'est le même objectif. Quand je lis, je dis par exemple « porter une », parce qu'avec ma tante, on doit dire. Par exemple, avec ma tante, je dois lire « pendant que le roi pêchait, Perceval parlait de choses ». Moi, je dis des choses. Mais avec ma tante, je suis obligé de dire des choses. C'est énervant, parce que tout le monde ne lit pas comme ça en classe. T'as remarqué que les autres camarades, ils lisaient pas comme ça? Non. Et tu penses qu'il faut lire comment, toi? Normalement. Mais sinon, c'est bien comme elle fait ma tante. T'as compris pourquoi elle te fait faire les E? Non. Et à l'école, comment ça se passe quand tu lis à voix? Tu marques les E ou tu évites? Tu vas dire chose ou chose? Chose. Mais des fois, ça m'arrive d'oublier, de pas le dire. Et tu vas essayer de te concentrer pour bien prononcer? Oui, parce que la prof, elle note tout. Et est-ce qu'elle note chose? Est-ce qu'elle veut que tu prononces comment elle? Je sais pas, moi, elle me l'a jamais dit. Alors toi, tu décides comment? Bah, je dis chose comme elle m'a montré ma tante. Bon, ce cas est peut-être un cas extrême, mais peut-être pas tant que ça. Si vous rappelez Être et Avoir, hein, qui portait sur une leçon de mathématiques, on a à peu près les mêmes épisodes familiaux le soir, voilà, parfois un peu dramatiques, hein, on surcharge la vie des familles avec ces affaires-là, dans lequel il y a des délibérations à l'infini sur la meilleure manière de poser des additions, et chacun y va de la manière dont il a appris lui-même à l'école. Dans son travail, Séverine montre comment des familles d'origine africaine font venir d'Afrique des ouvrages dans lesquels on a appris à lire parce qu'ils leur paraissent meilleurs que ceux de l'école contemporaine dans lesquels ils ne comprennent rien et qui sont des trahisons véritables à la langue française dont ils s'estiment même les ambassadeurs selon des retournements culturels absolument invraisemblables de la part de gens qui les prennent pour des sauvages. Donc il y a toutes ces choses-là qui se nouent à ces moments-là. Avec, sans doute, on suppose à la clé des conflits de loyauté possibles pour les gamins qui savent pas trop quelle est la bonne manière de faire, qu'est-ce que c'est la bonne langue. Déjà, à la maison, on parle pas forcément celle de l'école. Je vous fais pas un dessin. Voilà. Je vous transporte maintenant la proportionnalité au cours moyen 2, où, quand on voit les attendus des programmes, il s'agit d'utiliser un tableau ou la règle de 3 dans des situations très simples de proportionnalité. Résoudre des problèmes relevant de la proportionnalité, notamment des problèmes relatifs au pourcentage, aux échelles, aux vitesses moyennes et aux conversions d'unités en utilisant des procédures variées, dont la règle de 3. Moi, ce que je retiens de ça, et pour avoir discuté avec des collègues, y compris des didacticiens, la proportionnalité est quelque chose qui est difficile à acquérir pour les enfants. Et au primaire, on se contente, si je puis dire, mais vous me contredirez peut-être, de faire qu'ils résolvent des problèmes relatifs à... et qui utilisent des procédures. Voilà. Accéder au concept de proportionnalité, c'est pour plus tard. Mais on va voir un papa d'élève qui, lui, pense que quand même le concept, ça serait pas mal. Alors vous me direz, il est agrégé de philo, c'est un peu une tare, hein, j'en conviens, et la maman est elle-même agrégée d'histoire géo, donc on est dans un univers voilà, qui est quand même assez particulier. Annie Lane, dans sa thèse sur la réussite exceptionnelle scolaire des enfants d'enseignants, a fait une extraction d'enquête INSEE dans laquelle elle montre que si on regarde les cadres à niveau de formation identique, les enfants d'enseignants réussissent beaucoup mieux scolairement. Et encore, elle n'a pas fait d'extraction primaire-secondaire parce que le questionnaire ne lui permettait pas. Mais je pense que si on la faisait, on verrait qu'il y aurait encore une grosse différence. C'est une hypothèse. Hein, je vous incite à faire des thèses là-dessus, ou des enquêtes en tout cas, qui aurait sans doute une différence entre prise en main par des enfants, par des parents de professeurs de secondaire, voire d'université, s'ils ont le temps, de leurs enfants. Donc là, voilà, on a un dialogue entre Martin et son papa. Papa, pour ça, je comprends pas. Un enfant qui dit je comprends pas, c'est déjà quelque chose qui pour lui est un peu compliqué parce qu'en général ils ont plutôt envie que les devoirs soient faits plutôt que de venir sur des types de difficultés qu'ils rencontrent et qui vont peut-être les embarquer dans quelque chose qui va durer assez longtemps. Hein. Donc dire que si on fait une analyse fine des interactions, on verrait que Martin est habitué à jouer le jeu et que du coup il ne veut même pas regarder autant alors qu'il a déjà eu la leçon de piano par la maman puisqu'il voilà ils alternent et qu'il y a un examen au conservatoire le mercredi. On se reconnaît hein. Et donc il y a une organisation, un quadrillage extrêmement important, mais malgré ça il va jouer. Normalement on peut pas prévoir parce qu'il se fatigue, il court 200 mètres, c'est du sprint quand même, mais je sais pas si c'est comme ça que je dois raisonner hein, déjà méta-réflexion importante. J'ai raisonné parce que c'est impossible de courir aussi vite sur 200 mètres que sur 300 mètres. Donc voilà, il donne pas le simple résultat, mais je vous fais pas un dessin, vous voyez la suite. Oui, et donc en termes de proportionnalité, ça veut dire quoi? Alors le dialogue socratique va commencer. Et ça veut dire qu'il n'y a pas de proportionnalité puisqu'il se fatigue. Et oui, pour qu'il y ait proportionnalité, ça supposerait quoi? Qu'il puisse courir indéfiniment. Non, pas indéfiniment. Mais si tu divises la distance par le temps, ça s'appelle quoi? Prends les choses autrement. Il y a plusieurs voies d'accès à un problème, on est compte. Tu dis, il se fatigue, ça veut dire quoi quand il se fatigue? Il court moins vite. D'accord, donc, dire qu'il y a proportionnalité, ça veut dire qu'il court toujours à la même vitesse. Oui. Voilà. Donc, du coup, tu vas répondre quoi? Non, parce que, parce qu'on peut pas. On court pas tout le temps à la même vitesse. Parce qu'on peut pas courir sur une si longue distance à la même vitesse. Ouais, 3000 mètres. Voilà. Donc, comme tu disais, il va ralentir parce qu'il se fatigue. Oui, d'accord. Est-ce qu'il t'a compris que, quelle opération tu fais en général? On trouve là, évidemment, immédiatement la généricité pour savoir s'il y a proportionnalité ou pas. Dive, je fais une division. D'accord. Donc, la proportionnalité, c'est un rapport. C'est ce que tu fais par une division. Et d'accord? Oui. Voilà. Bon, l'échange s'arrête. On passe ensuite à un échange avec Séverine, en l'occurrence, qui lui demande pourquoi il fait ça. Pour moi, c'est plus cohérent d'aborder les mathématiques par un raisonnement mathématique abstrait. Mais, pédagogiquement, c'est pas comme ça que font les enseignants en élémentaire. Ils le feront plus progressivement que j'aurais tendance à le faire là, donc. Mais parce que c'est Martin et que je le connais, j'ai tendance à penser que ça pourrait lui faire du bien de le faire. Mais je ne généraliserai certainement pas. C'est compliqué à dire, mais moi, il me semble que c'est ce qui permet de comprendre intellectuellement, conceptuellement, la notion de proportionnalité. Mais je ne suis ni mathématicien, ni professeur de mathématiques. Donc la question didactique de savoir si c'est par l'introduction de la notion générale qu'on arrive à la compréhension de la proportionnalité chez un enfant de 11 ans, ou si c'est par un raisonnement plus inductif, je sais ce qu'en penseraient mes collègues de maths au collège. Ils ont tendance à dire que c'est un discours assez répandu chez les profs de maths, qu'il y a de moins en moins de place pour le raisonnement abstrait, pour les concepts mathématiques, y compris tel que ça se pratiquait comme il y a 15-20 ans au collège, où on faisait beaucoup de mathématiques formelles. On définissait des concepts très très compliqués d'ensemble mathématique, et dans l'évolution de la pédagogie des mathématiques, de ce que disent mes collègues, on est passé de l'autre côté du cheval. Au lieu d'introduire des concepts généraux, souvent très abstraits et finalement assez confus dans l'esprit des élèves, il s'agit de dégager la proportionnalité par tâtonnement. Donc voilà quelqu'un qui connaît ce qui se passe en primaire, qui connaît ce qui se passe au collège, qui connaît son fils, et qui décide d'en faire plus que le curriculum, puisqu'on va anticiper. Il y a des endroits dans lesquels on voit qu'il y a à l'arrière-plan la querelle historique entre Leibniz et Descartes sur la pensée aveugle d'un côté, la pensée intuitive, la géométrie analytique, le calcul des probabilités, etc. C'est nourri de tout ça, et il, avec une patience infinie, un sens de l'observation, du tact d'appui sur les démarches propres de l'enfant, on va passer une longue séance dans laquelle la notion de proportionnalité commence à prendre forme sous nos yeux ébahis, et sans doute de manière durable, hein, et avec une anticipation qui fait que les enseignants de mathématiques qu'il aura quelques années après diront, vous voyez, il y a des élèves qui arrivent, donc ils doivent tous pouvoir y arriver. Voilà. Fin de l'épisode. La question donc qui est en jeu, et pour encore une fois redire toute la dette que j'ai vis-à-vis Christine Félix, qui moi m'a introduit à ces questions-là, c'est la question qui se pose, c'est la question du transport du milieu didactique et du retour du milieu didactique, hein, au début. D'autant qu'on a vu que les enseignants, ils sont comme nous, ils voient bien l'assez grande inefficacité des devoirs du soir, en tout cas dans une grande partie d'entre eux. Souvent, ils vous disent, ben, je les corrige pas. Ah bon, pourquoi? Ben, d'abord, je suis pas sûr que c'est mes élèves qui les ont fait. On est quand même là devant un cas de figure assez curieux. Donc, on sait pas si ça sert à quelque chose. On sait pas si c'est les élèves qui l'ont fait. Et puis, si je les corrigeais, je perdais du temps sur mon programme. Il y a des pratiques sociales plus fondées, hein, que celles-ci. Et pourtant, et malgré tout, ça demeure, et c'est donc ce qu'a empruntant à la sociologie de Latour, la notion d'espace d'intéressement, ça me fait dire que, c'est là où le sociologue rentre un peu en piste et tend la main au didacticien, c'est-à-dire, ben, si l'intérêt didactique n'est pas avéré, c'est qu'il y a d'autres intérêts qui sont en jeu. Les intérêts qui sont en jeu, c'est qu'on est dans un monde social dans lequel les devoirs sont un élément de transaction entre plusieurs mondes, l'école, ce qui n'est pas elle, ce dont elle s'est clôturée historiquement, pour toutes sortes de raisons. Mais que du coup, alors même que la totalité des acteurs qui participent au devoir, hein, vous savez que, enfin, je sais pas si vous savez, mais la tour raisonne en termes de réseau. Les devoirs, c'est un réseau. C'est pas juste un élève devant son cahier ou devant le cahier rouge ou la fiche G4 ou F5. Les devoirs, c'est un réseau extrêmement puissant qui d'ailleurs revient au budget de l'État, je crois, 1,5 milliard par an, hein. Ça a été calculé par des économistes de l'éducation. Ne serait-ce que par le biais de dégrèvements fiscaux qui sont consentis aux entreprises qui obligamment prennent en main les enfants, voilà. Donc c'est une grosse affaire sociale, hein. C'est pas du tout un aimable jeu didactique, ou pas seulement. Ça met en jeu une institution, évidemment, des enseignants, des élèves, des parents d'élèves, des assistants pédagogiques, des aides éducatives, des étudiants, des profs qui donnent des cours particuliers défiscalisés, des académias, des aides aux devoirs, la mairie qui met de l'argent et qui va dire ça dans son programme électoral parce qu'il faudra bien justifier ce qu'on a fait du denier des contribuables et que donc il faut des résultats, des sites sur le net, des éditeurs, des cahiers de vacances. Alors, voilà, c'est une nébuleuse absolument considérable. Qui n'a pas forcément intérêt, pour parler en termes bêtement objectifs, hein, à ce que ce système-là arrête. Et aussi parce que si dans une école comme la nôtre, qui est si fermée au monde qu'elle prétend extérieur, quels sont les objets qui circulent entre elle et lui ? Ben, il n'y en a pas 36. Il y a entre autres les devoirs, qui sont un élément grâce auquel les familles peuvent avoir un regard sur ce que font les enseignants. Moi, j'ai tendance à penser, peut-être une vision naïve et utopique, que si les parents pouvaient rentrer dans l'école davantage, non pas pour dire aux enseignants ce qu'ils ont à faire, mais pour comprendre mieux ce qui s'y passe, voire faire état des difficultés que ça peut poser de faire travailler ses enfants et comment on fait avec, la question des devoirs se dégonflerait comme le marronnier, si je puis dire, qui peuple les médias et les débats, parce que les parents comprendraient que c'est pas leur job de faire ça, même s'ils peuvent inciter à faire les devoirs et créer les conditions pour qu'eux. Les enseignants comprendraient aussi que c'est pas leur job et que voilà, ils sont pas obligés de donner des gages au fait qu'ils travaillent à des parents. Le cas classique, c'est que beaucoup de jeunes enseignants disent, mais après tout, puisque les devoirs sont pas obligatoires, moi j'ai décidé de pas en donner. Ils tiennent le coup 1 an, 2 ans. Et si c'est pas une décision d'école, et ils rentrent dans le moule comme tout le monde, parce que vous ne pouvez pas lutter indéfiniment contre la pression des parents, des collègues, voire des enfants eux-mêmes, puisque dans la classe parallèle, on donne des devoirs, et dans la vôtre, on n'en donne pas. Donc vous êtes un je m'en foutiste évident. Voilà, donc espace intéressement, je pense que c'est assez pertinent de... Je développe pas trop, parce que je serais trop long, mais je pense que c'est assez pertinent de raisonner dans ces termes-là, notamment en utilisant le concept de traduction de Latour et Calon, parce que les devoirs sont à un moment donné un traducteur de demandes un peu antagoniques, un peu paradoxales. Ça débouche sur des chartes d'accompagnement à la scolarité que Ségolène Royal, la première, a mise en œuvre et qui ont été retravaillées sans arrêt, dans lesquelles, à mon avis, au lieu de régler les questions d'apprentissage fondamental, on règle surtout la question du rôle des adultes. Qui a le le droit de faire quoi ? Quels sont les prés carrés ? Quelles sont les plates-bandes ? Qui intervient à quelle heure ? Qui est rémunéré combien ? Ça, c'est des questions tout à fait importantes pour la société. Je suis pas sûr qu'on règle la question des apprentissages à partir de là. Je pense qu'on continue de conforter l'espace d'intéressement au détriment de qu'est-ce qui circule encore une fois entre l'école. Parce que le problème, c'est que l'enfant, c'est pas l'enfant des enseignants ou des éducateurs, c'est le même qui circule d'un endroit à l'autre. Et que même si on arrive à définir des pactes de non-agression pour que les enseignants disent nous on n'est surtout pas des éducateurs, et les éducateurs disent on n'est surtout pas des enseignants, ce qui va bien à tout le monde, évidemment c'est pas vrai, vous pouvez pas éduquer sans enseigner et vice versa, et que de toute façon les enfants ne se découpent pas en rondelles entre les espaces. Voilà, donc ça c'est un débat qu'on pourrait avoir, mais qui à mon avis est une clé importante de l'aspect. Quand on essaie de réintégrer le travail dans l'école, et ça sera en guise de conclusion, les quelques observations que j'ai pu faire, mais il faudrait évidemment en faire davantage, c'est qu'on se rend compte que donner une unité de temps et de lieu au travail, on dit voilà, puisqu'on le fait dans la plupart des cas ailleurs et à un autre moment, on va essayer de le faire dans l'école et dans un temps qui est le plus proche possible du temps scolaire. Dans ce que j'ai vu et qui était des aides aux devoirs, ou voilà, genre études surveillées, notamment là c'était dans un collège où il y avait des enseignants référents à la suite de la création du réseau Ambition Réussite. Hein. Vous savez, les enseignants à l'époque, je sais plus où on en est, mais ils avaient deux heures, je crois, de dégrèvement de service, qui leur permettait à la fois d'accueillir les nouveaux collègues dans l'établissement et à la fois de s'occuper d'élèves qui n'étaient pas forcément leurs élèves. Donc là, ils avaient décidé de faire une étude surveillée extrêmement bien organisée, dans laquelle les enfants étaient accueillis entre 4h30 et 6h après la journée de travail, encadrés par des adultes volontaires, les référents, mais aussi d'autres adultes. En fait, ce que je vous propose brasse sur plusieurs établissements. Et au fond, les types de conduites qu'on a repérées et auxquelles on a donné des noms qui se veulent plaisants, peut-être pas forcément réussis, c'est les conduites en garçon de café, les conduites en maraude et les conduites en file d'attente. Alors, garçon de café, c'est assez classique. Vous avez un adulte qui est là. Les élèves sont pas regardants, hein. Pour peu que ce soit un adulte, y compris les chercheurs qui en ont, on les tire par la manche et on va absolument avoir la réponse à l'exercice pour pouvoir aller jouer à quelque chose chez soi ou dans la cour le plus vite possible. Ce qui rentre pas vraiment dans le type 3, hein, des devoirs que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà, les élèves claquent des doigts, appellent désespérément, et l'enseignant ou l'enseignante ou la personne qui est là se démène quand même au diable pour essayer de passer le plus possible auprès des élèves. Julien Netter, qui a fait aussi un de son travail là-dessus, calcule que je crois on peut consacrer une minute et demie ou deux minutes à chaque élève hein, dans ce genre de situation. Donc, qui est à l'initiative ? Les élèves. La logique dominante des acteurs, les élèves sont plutôt dans une logique de la tâche et de l'acquittement de la tâche, pour prendre des notions qui nous sont chères. Le rôle de l'adulte est un rôle de dépannage. Il est là pour essentiellement vérifier et remédier. Hein. C'est comme chez le garagiste, vous prenez pas de rendez-vous, on est là très vite, on dépanne rapidement. Le rôle de l'élève, c'est il s'acquitte lui-même de la tâche et il donne quitus à l'enseignant qu'il a fait son travail. Donc finalement, l'espace d'intéressement est bien rempli, puisque chacun, à la fin du jeu, pense qu'il a fait son boulot. À l'opposé, la file d'attente. La file d'attente, c'est quand l'enseignant, il est un peu stressé de circuler partout, il va organiser la chose depuis son bureau, et on va prendre un ticket pour pouvoir passer, pour montrer. C'est un peu comme à la poste aujourd'hui. Voilà, maintenant, il y a une nouvelle organisation. Autrefois, c'est les postiers qui avaient peur. Maintenant, c'est les clients. Vous avez peur de louper le truc quand le prompteur, parce qu'il y a plusieurs clichés, les numéros, la sécurité sociale. Vous êtes dans un état de tension assez important, surtout si vous faites griller la place parce que vous n'étiez pas au bon moment et qu'il faut reprendre un ticket. Là, l'adulte est à l'initiative. Mais l'enseignant est beaucoup dans ce que Wood appelle une stratégie de survie, parce que qu'est-ce qu'on voit ? On voit que souvent l'élève il vient et dit voilà, j'ai une leçon récitée, ok, récite la leçon. Il se trompe un mot, il dit tu la sais pas, tu repars, tu la reprends. Voilà, donc une manière de tempérer, de calmer le jeu, parce que on peut pas rentrer dans la problématique d'un travail, même si c'est un travail élève du primaire. Je crois qu'on ne peut pas, dans aussi peu de temps, savoir où est l'élève, où sont ses blocages épistémologiques, qu'est-ce qu'il pense, qu'est-ce qu'il sait, qu'est-ce qu'il a appris, qu'est-ce qu'il a compris, ce que fait le papa de Martin dans un autre endroit, à un autre moment. Le rôle de l'adulte est surtout un rôle de vérification, et même logique, il s'acquitte lui-même du travail pour lequel il est payé, il donne quitus à l'élève qu'il est de bonne volonté, qu'il peut rentrer chez lui et qu'il a fait un bon passage à l'aide aux devoirs. Le cas de la maraude est un cas un peu intermédiaire, c'est que l'enseignant peut se balader dans la classe sans être forcément incité à s'arrêter à tel ou tel endroit. Mais donc la logique, elle est mixte. Soit l'élève ou l'adulte, mais elle est assez aléatoire, parce que l'élève va appeler parce qu'il rencontre un problème. Est-ce que ça veut dire que les élèves qui n'appellent pas ne rencontrent pas de problème, etc. La logique dominante, c'est que l'adulte est dans une logique d'expertise, et l'adulte peut être plus ou moins dans une logique de remise de l'activité, parce que si la maraude fait qu'il s'arrête assez longtemps, alors ça peut varier du plus au moins. Le rôle de l'adulte, ben, il est comme ce qu'on avait il peut être soit dans les typologies qu'on a dégagées, les typologies de chic notes, c'est-à-dire il y a des élèves, il suffit de les mettre un peu sur les rails, et puis c'est juste qu'ils sont un peu fatigués de la journée, ça marche. Il y a des élèves pour lesquels il faut faire de la restauration conceptuelle complète, parce qu'on voit que le travail dans le milieu numéro 1 n'a pas été satisfaisant. Mais il peut y avoir aussi une logique de pacification, qui est de donner quitus, c'est de dire, bon, t'as bien travaillé, c'est bien, tu peux remballer, c'est l'heure. Voilà. Et donc, les rôles, hein, sont des rôles mixtes ici. Voilà, c'est à peu près ce que j'allais vous dire. L'unité de temps et l'unité de lieu, ouais, je m'en tiens à mon heure, comme prévu, n'est pas là. C'est pas comme au théâtre, hein. Et de toute façon, il suffit pas, pour faire une bonne tragédie classique, il suffit pas que ça se passe au même endroit. Il faut écrire quelques vers au milieu, quoi, et qu'il y ait une intrigue et de l'intensité dramatique et poétique et tout ça. C'est un peu pareil pour les devoirs. Et puis, je crois que ce sur quoi je suis lassant à force d'insister là-dessus, mais bon, c'est comme ça. C'est comme celui qui disait à chaque fois qu'il fallait détruire Carthage. Hein. Je pense qu'il faut s'attaquer à l'iceberg de voir, en regardant bien ce qui est dessous, et que notamment tout traitement de la question des devoirs par le biais des statuts est un traitement qui peut être socialement utile et politiquement utile à un moment donné, mais qui est voué à l'échec si on ne regarde pas ce qui est en jeu dans le travail, les devoirs à la maison n'étant qu'un aspect du travail des élèves. Et lorsque les journalistes demandent alors est-ce qu'il faut interdire ou pas les devoirs à la maison, on leur dit mais arrêtez, il faut sortir de ce schéma binaire, ça n'a pas de sens. Vous parlez des devoirs des élèves de terminale ou des élèves de CP, c'est les mêmes. Vous croyez qu'on peut préparer le bac sans faire des devoirs? Évidemment non. Et puis c'est des devoirs de quel type et à quelle fréquence? Ils sont notés, ils sont pas notés, ils servent à quoi? Voilà. Bon, après ils arrêtent parce qu'ils n'ont que 10 lignes un tweet, voilà, pour vous consacrer, et ça sort du cadre, hein, parce que la question, encore une fois, c'est qu'est-ce qu'on fait quand on travaille, qu'est-ce qu'on fait quand on apprend à l'école, et là, on rentre dans la question des arrière-plans des apprentissages, et c'est une question complexe. Merci pour votre attention.